Bonjour David, bonjour à tous. À suivre dans un instant le témoignage de Benoît Jeunet au lendemain de sa garde à vue dans le cadre des violences à Sainte-Soline en mars dernier. Le porte-parole de la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres se dit soulagé mais toujours aussi déterminé dans ce dossier des méga-bassines. Manque d'effectifs et de reconnaissance, les assistants de régulation médicale se mettront en grève illimitée à partir de lundi prochain. Malgré tout, ils assureront le service au centre 15. Les travaux d'assainissement sont enfin lancés à la chapelle Gaudin. Il faut dire qu'ils étaient devenus indispensables. Les lauréats du premier challenge national, l'incroyable collecte organisée par les ateliers du bocage et HP France dévoilée, une école du bocage termine sur le podium. Le traditionnel festival de peinture et de sculpture de Saint-Loup ce week-end, il s'agira de la 27e édition. Et puis le forum des associations de Mauléon ce samedi avec 50 associations qui s'afficheront pour les 50 ans de la commune. Quant à la météo, malgré de larges éclaircies, quelques bandes de nuages pourraient apporter quelques gouttes localement cet après-midi. Benoît Jeunet se dit donc soulagé, mais déterminé à poursuivre le combat. Le Neuil-Aubrais s'est retrouvé en garde à vue hier à Niort tout au long de la journée. Le porte-parole de la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres et 6 autres militants anti-bassines étaient convoqués en gendarmerie pour être entendus suite à la manifestation de Sainte-Soline en mars dernier. Mais l'audition a viré à la garde à vue avant une libération en fin de journée. Le procureur de la République a annoncé dans un communiqué une convocation devant le tribunal correctionnel de Niort le 8 septembre prochain pour organisation de manifestations interdites sur la voie publique. Benoît Jeunet, interrogé par Fabien Gazot.
Soulagé de rentrer à la maison, de revoir ma femme et mes enfants, de remercier aussi tous les encouragements et soutiens que j'ai pu avoir ici ou là-bas sur Niort et même de la France entière. Voilà, et puis maintenant on va se préparer à expliquer ce qu'on a vécu, pourquoi on organise des manifestations alors qu'on nous refuse notre expression. Le service de l'État, la préfecture, le ministère refusent de nous accueillir pour discuter de ce problème de l'eau, donc on est bien obligé d'organiser des manifestations. Et encore une fois, la preuve, j'ai participé à sauver activement des gens qui ont été blessés et pas par moi. Et c'est quand même bien nous et moi qu'on envoie demain au tribunal. L'État est condamné pour une action climatique et nous, lanceurs d'alerte, on souhaiterait nous condamner. Donc il y a quand même réellement un problème quelque part.
La garde à vue n'était qu'une demi-surprise pour tous ceux qui étaient convoqués en gendarmerie hier. Très engagé sur le plan syndical, Benoît Jeunet se retrouve donc aussi exposé sur le plan pénal. Mais le soutien collectif, qui s'exprime aussi à travers les coups de main à la ferme, permet de tenir le coup.
Ce qui est là aussi incroyable dans cette histoire, c'est que moi j'ai rien à défendre personnellement. Le débat sur l'eau en Deux-Sèvres me concerne en tant que porte-parole de la Confédération Paysanne, mais ne me concerne pas à titre personnel. Et c'est bien à titre personnel que je suis convoqué en justice. Donc voilà, ça renforce la légitimité de notre action collective. Mais effectivement, ça reste difficile de prendre personnellement des coups. Mais voilà, on reste combatif parce que la cause est juste, la lutte est bonne. Et je le fais pour mes collègues et ils me le rendent quand ils viennent me soutenir dans ces moments-là.
Benoît Jeunet, porte-parole de la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres, convoqué devant le tribunal correctionnel de Niort le 8 septembre à venir pour organisation de manifestations interdites sur la voie publique. 6 autres militants anti-bassines sont également concernés. Les ARM en grève illimitée à compter de lundi prochain. Les ARM, ce sont les assistants de régulation médicale. Ce sont eux qui décrochent le téléphone lorsque l'on compose le 15 pour répondre aux secours et aux urgences médicales. En Deux-Sèvres, ils sont une vingtaine à se relayer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et tous déplorent une charge de travail de plus en plus importante, surtout en période estivale, en raison du manque de professionnels de santé, la fermeture des cabinets médicaux ou encore de certains services d'urgence la nuit. Brice Giraud est chargé de communication de l'AFARM en Deux-Sèvres, l'association française des assistants de régulation médicale.
Le ministère nous a accordé un statut de professionnel de santé. Nous, ce que nous voulons, c'est une nouvelle grille salariale adaptée à nos responsabilités. On demande aussi la reconnaissance de nos nouveaux métiers, c'est-à-dire le métier de coordinateur et de superviseur, qui ne sont à ce jour pas reconnus par le ministère de la Santé. On demande également une prime de risque l'été de 120 euros jusqu'à ce que ces nouvelles grilles nous soient accordées. C'est le seul moyen de pression que nous avons aujourd'hui. Nous avons alerté à de nombreuses reprises sur le fait que cette valorisation n'avançait pas assez vite. On a eu une certaine proposition du ministère des DGOS pour une prime cet été, mais qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend. Donc on attend que enfin le gouvernement et le ministère avancent beaucoup plus vite avec nous et nous entendent enfin. Il n'y aura pas de problème avec la population, nous serons là pour décrocher le téléphone, il y aura toujours un ARM pour recevoir les gens et les guider vers le meilleur médecin, la meilleure filière. Nous assurons quand même notre service. Hein.
Brice Giraud, chargé de communication de l'Association française des assistants de régulation médicale en Deux-Sèvres. Si ces derniers annoncent une grève illimitée à partir de lundi prochain, vous l'avez entendu, le mouvement n'aura pas d'impact sur la prise en charge des appels téléphoniques au centre 15. Les travaux d'assainissement sont enfin lancés à la chapelle Gaudin. Cela faisait longtemps que le petit bourg de 250 âmes attendait ces travaux, réalisés actuellement par l'entreprise Tempero, TPF, indiqué hier matin le maire délégué Sébastien Labilonnière aux côtés d'Armel Cassin, maire d'Argentonnet.
C'était une des rares communes de l'agglo qui n'était pas encore équipée et c'était nécessaire pour les habitants de la chapelle Gaudin. Il est absolument indispensable, si vous voulez, si nous voulions accueillir une nouvelle population, de lui offrir ce service, sinon nous n'avions pas la possibilité de les accueillir.
Les installations de la chapelle Gaudin n'étaient plus du tout adaptées. Les élus de l'agglo de B ont bien saisi l'urgence de la situation, à l'image de Pierre Bureau, vice-président de la collectivité en charge de l'assainissement.
Le port de la chapelle Gaudin était un assainissement non collectif, et puis il y avait surtout, pour les propriétaires, un problème de mise aux normes de leur assainissement s'ils devaient vendre leur bien. Et certains n'ont pas assez de surface pour pouvoir remettre aux normes. Donc la nécessité était claire d'avoir à résoudre ce problème-là en créant un réseau d'assainissement collectif. Et ça fait un budget qui est quand même de 200 000 euros. Et je dois remercier, il faut bien le dire, les propriétaires et aussi l'exploitant agricole qui nous ont débloqué le dossier pour avoir les acquisitions foncières pour pouvoir réaliser cet équipement qui devenait indispensable.
Un lagunage est donc en cours de construction à la chapelle Gaudin, alors que 600 mètres de canalisation ont été réalisés cet hiver entre le bourg et cet ouvrage situé en contrebas du cimetière. Emmanuel Guéry est le directeur du service assainissement de l'agglo de B.
On a fait le choix d'utiliser un système plutôt extensif, de type lagunage naturel. Donc il est constitué de 3 bassins successifs, d'une surface totale de 2400 m2, qui vont pouvoir traiter les effluents générés dans le bourg, qui représentent à peu près 150 habitants. Et les travaux de construction de la lagune seront terminés fin juillet. On a donné pour objectif de terminer ces travaux avant les congés d'été.
Le lagunage naturel sera donc en service d'ici un mois à la chapelle Gaudin. Les lauréats du challenge L'Incroyable Collecte dévoilé le 19 septembre 2022 à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, les ateliers du bocage et HP France lançaient ce concours visant à collecter le maximum de cartouches d'encre vides auprès des familles et des enseignants dans les écoles et collèges de France qui s'étaient inscrits. Les boîtes de collecte avaient ainsi été mises à disposition pour cette opération, une opération qui s'inscrit pleinement dans les actions des ateliers du bocage. Anne Richard y est chargée de marketing.
C'est une activité que l'on fait déjà au sein des ateliers du bocage, la collecte de cartouches et d'encre et de tonnerre. Alors nous, on va les collecter, trier, nettoyer, et ensuite on va pouvoir les envoyer soit en filière pour du réemploi, soit pour du recyclage.
Votre point de vue, votre regard sur cette opération ?
Une belle opération d'envergure. On est vraiment très contents d'avoir pu être accompagnés par notre partenaire HP France pour lui avoir donné cette ampleur nationale. Et c'est que du bonheur d'avoir pu annoncer aux écoles leur lot et leur dotation.
C'est une opération nationale et une école locale décroche le deuxième prix.
C'est ça. L'école Notre-Dame à Le Pin a décroché la seconde place, ce qui lui rapporte donc 3000 euros de dotation en matériel informatique HP.
23 écoles et collèges de Sévrier ont participé à cette première édition du challenge L'Incroyable Collecte. Et si le premier prix a été remporté par une école du Pas-de-Calais, la seconde place est revenue, vous l'avez entendu, à l'école Notre-Dame du Pin, avec quelques 2000 cartouches collectées, et ce pour le plus grand bonheur d'Olivier Bien, responsable commercial aux ateliers du bocage.
Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est génial, parce qu'effectivement, en plus, un certain nombre de collègues ont leurs enfants dans cette école, donc on avait aussi quelques ambassadeurs en interne qui nous ont bien aidés à collecter, effectivement. Oui, c'est une très belle expérience, j'avoue, j'ai eu beaucoup de plaisir à sentir les émotions des chefs d'établissement, les trois directrices qui étaient vraiment ravies de savoir qu'elles avaient gagné et n'ont pas arrêté de nous remercier. Et on reçoit encore des messages aujourd'hui de remerciements par mail, les photos des enfants. On est vraiment très très contents et c'est une très très belle aventure, effectivement.
Alors on rappelle que ce n'était pas par poids, hein.
Non, on a vraiment voulu réfléchir à une solution, c'est-à-dire qu'on a pris le rapport suivant, le nombre de cartouches collectées divisé par le nombre d'élèves, de manière à ce que toutes les écoles puissent avoir une chance, parce que bah, effectivement, quand on a beaucoup d'élèves et beaucoup de classes, on peut en récolter beaucoup plus que quand on a juste une petite classe de 23 élèves.
Les écoles lauréates, mais aussi près de 200 autres établissements impliqués dans ce défi à travers toute la France, ont permis de collecter plus de 22 900 cartouches d'encre qui vont donc être réemployées. Deux concerts totalement gratuits demain à Montcoutant-sur-Sèvre. La place de la mairie accueillera dans un premier temps à 19h30 Cyril Magui, auteur, compositeur, interprète et guitariste dans un répertoire blues, suivi de Yarol Poupou qui fut notamment directeur artistique et guitariste de Johnny Hallyday. Un grand moment en perspective demain soir à Montcoutant-sur-Sèvre. On reste à Montcoutant avec le vernissage de la 13e édition du Festival photographique prévu ce samedi à 15h30 dans le parc du Château de Genève, en présence d'une bonne partie des photographes sélectionnés cette année autour de Réanne, l'invité d'honneur 2023. Ce Normand d'origine grand voyageur s'est établi au Vietnam. Il donnera une conférence d'ailleurs dimanche, toujours au Château de Genève et toujours à 15h30. Saint-Loup accueille son 27e festival de peinture et de sculpture les 1er et 2 juillet. Le premier week-end de juillet sera une date pour la rencontre de deux arts majeurs à Saint-Loup-sur-Touille, à l'initiative de l'association des Rendez-vous de Saint-Loup. Près de 120 artistes, peintres, sculpteurs honoreront cette rencontre qui permet d'exposer des œuvres déjà réalisées, mais aussi et surtout de participer à un concours in vivo sur place, comme l'explique Stéphane Basque, l'un des piliers de l'organisation. Il est au micro, Colline de Dominique Hérault.
Comme tous les ans, nous avons à peu près 60 concurrents peintres et entre 5 et 10 concurrents sculptures. Ils s'inscrivent dès le samedi matin, ils travaillent tout le week-end. Et ensuite, il y a un jury qui est composé d'artistes, de bénévoles, qui se réunissent pour une remise de prix. Le grand rendez-vous, c'est le dimanche. Au niveau peinture, il y a à peu près une dizaine de prix, dont le premier se monte quand même à 800 euros. Et la sculpture, nous avons 4 prix. Également, le premier prix est un montant de 800 euros. Il y a le vote du public. Et très souvent, c'est assez amusant. On est assez surpris du choix du public. Au cours du week-end, il y aura des animations, des peintures et des animations en sculpture destinées pour les enfants. Cette année, on aura une nouveauté, il y aura une fresque destinée aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et là, les parents, disons, ils sont enchantés de voir les enfants faire de la peinture et de la sculpture. Et souvent, parfois, eh bien, ils se prêtent au jeu, ils font également de la peinture et de la sculpture.
Toutes les générations seront donc réunies autour des chevalets, le summum étant atteint le dimanche après-midi lors de la remise des prix qui réunit de 5 à 600 personnes. En somme, un week-end pour faire le plein de formes et de couleurs. Reportage signé Dominique Hérault. Mauléon, de son côté, prépare son forum des associations ce samedi 1er juillet, avec 50 associations attendues pour marquer le 50e anniversaire de la commune sous sa forme actuelle avec les communes déléguées. Et afin d'élargir l'audience, la ville a décidé de l'ouvrir à toutes les associations et plus seulement au secteur sportif. Précision au micro, Colline de Famengazo, avec Alain Brianceau, adjoint en charge des associations, et Emeline Jaouen, en charge des événements sur Mauléon.
Ça, c'est la demande des associations qui n'étaient pas sportives. Avant, on avait réuni donc un forum simplement sportif, mais cette année, on a eu la demande d'agrandir, donc on a agrandi sur toutes les associations de notre Mauléonais.
Alors évidemment, qui dit forum dit la possibilité de découvrir ces associations, de pourquoi pas prendre des inscriptions. Les associations vont assurer quelques animations. Hein.
Oui, chacune travaille à réaliser certaines animations, alors soit directement depuis leur stand, hein. Chaque stand sera animé par les bénévoles qui vont les composer. Puis après, on sait qu'il y a des associations qui vont proposer des démonstrations, que ce soit les associations sportives, mais même en avant la danse, ou encore l'amicale des sapeurs-pompiers qui viendra également pour l'occasion.
50 associations donc sur ce forum de Mauléon, dans tous les domaines, du patrimoine au sport, en passant par le culturel, l'événement, l'éducation, la jeunesse, la famille, le social ou encore les solidarités. Ça se passe donc ce samedi de 9h à 14h au complexe sportif Pierre Martin de Mauléon. Pierre Journeau, Alexandre Tricouard, Flo Mazière, ce sont les trois premières recrues du FC Noyobier pour la saison prochaine. Retour aux sources pour ces trois garçons après des passages à Bressuire ou encore Thouars. Au chapitre des faits divers, les pompiers sont intervenus cette nuit peu avant 5h dans le parc de Champré à Mauléon. Une voiture a en effet été la proie des flammes au cœur de ce parc pourtant interdit aux engins motorisés. Un accident de la circulation s'est produit ce matin peu avant 8h30 à Échiré, dans le sens Partenay-Niort. Lors d'une manœuvre de dépassement, un véhicule et une voiturette sans permis se sont percutés. La collision s'est soldée par trois blessés légers.